RFI. Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Mes chers compatriotes, aujourd'hui, dimanche 23 avril, le peuple de France s'est exprimé. Alors que notre pays traverse un moment inédit de son histoire, marqué par le terrorisme, les défis économiques, les souffrances sociales et l'urgence écologique, il y a répondu de la plus belle manière, en allant voter massivement.
Mes chers compatriotes, vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur. Avec humilité et reconnaissance.
Bonjour à tous, ils sont les grands vainqueurs de ce premier tour de la présidentielle française. Les instituts de sondage qui avaient prédit un second tour Macron-Le Pen. Alors à quel point ces pronostics ont pu peser sur le vote des Français? La perspective d'un score élevé du Front National a-t-il incité les électeurs à voter, pas forcément pour le candidat de cœur, mais de raison, un vote utile? Teresa Steudel leur a posé la question ce dimanche à la sortie des urnes.
Madame, j'ai donné un vote utile, je pense, parce qu'en fait, je voulais vraiment pas qu'au deuxième tour, on se retrouve comme la dernière fois. Et je suis très écolo, j'avais voté écolo la première fois. Donc cette fois-ci, j'ai choisi d'épauler un candidat qui a vraiment beaucoup de chances d'être au deuxième tour.
Moi, ce sera plutôt un vote utile, parce qu'il n'y a personne qui me séduit vraiment. C'est la fois où je vote avec le moins de conviction, peut-être.
Pour moi, le vote utile, c'est voter pour ses convictions. Donc j'ai voté pour celui qui était le plus proche de mes convictions. C'est quand on commence à partir dans des calculs dont on ne maîtrise pas, en plus, véritablement tous les tenants, que parfois on peut se mettre dans une situation risquée. Donc je pense qu'il faut voter pour ce à quoi on croit. Et puis après, on verra au deuxième tour.
Deuxième tour, on réfléchit aux deux candidats, celui qui est le plus dangereux, le moins dangereux, et on vote utile à ce moment-là.
Selon moi, au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine.
Pour moi, le vote utile, après, souvent, les candidats le récupèrent en disant « Nous avons 60%. » Non, vous avez peut-être 30%, et il y a 30% de gens qui ont voté contre les autres. Et du coup, je suis vraiment contre cette espèce de récupération politique après coup. Donc, je voterai par conviction, parce que j'aime pas faire de compromis sur mes convictions.
Témoignage d'électeurs parisiens recueillis par Teresa Steudel, notre consoeur originaire d'Allemagne. L'Allemagne qui a poussé un grand ouf de soulagement à l'annonce des résultats et qui croit en la victoire finale d'Emmanuel Macron. Angela Ulrich est journaliste. Elle a été correspondante en France pour l'ARD Radio et travaille actuellement pour la radio publique allemande à Berlin.
C'était vraiment un grand, grand soulagement parce que Emmanuel Macron, le favori de l'Allemagne, est au deuxième tour et on a eu peur quand même en Allemagne que ce sera d'autres combinaisons sans Macron et ça, ce serait vraiment un désastre parce que Macron, il est vu comme politique vraiment qui serait bien pour l'Europe, donc pour l'amitié franco-allemande et ça a ressuscité un grand, grand soulagement parmi la classe politique allemande qui vraiment a déjà donné des félicitations pour Macron, ce qui a aussi suscité quelques questions et quelques critiques.
Qu'est-ce qui séduit les Allemands dans le profil d'Emmanuel Macron?
C'est une tête nouvelle, il s'exprime très très clairement pour l'Europe et je crois l'Allemagne qui voit déjà la Grande-Bretagne quitter l'Union européenne, a vraiment besoin d'avoir un partenaire français avec qui elle pourrait être en tête de cette idée franco-allemande. Et même si avec Macron, il y a aussi beaucoup de questions, il n'a pas de parti, il n'a pas de vrai organisme derrière, il y a quand même des espoirs. Avec Macron, l'Allemagne pourrait vraiment marcher en avant sur l'Europe ensemble.
Il y a en tout cas une conviction, c'est que Marine Le Pen sera battue au second tour.
Oui, je crois cette conviction est là, même si on voit qu'avec l'élection de Trump ou le Brexit, il y a toujours quelque chose, on ne peut pas être sûr de toute façon. Il y a aussi, parmi les politiques de la région frontalière de l'Allemagne, il y a aussi moins de soulagement et plus de peur parce qu'ils voient que Marine Le Pen et donc ses idées anti-européennes ont eu des résultats très très forts dans ces régions-là. Donc ça, c'est aussi clair pour les Allemands que même avec une victoire Macron, les idées et les difficultés en France ne seront pas tout de suite plus là. Donc il faut vraiment essayer d'aider aussi les Français pour que cette idée qu'on puisse marcher ensemble avec l'Allemagne redevient vraiment fort.
Angela Ulrich de la radio publique allemande. À Londres maintenant, dans une Grande-Bretagne du pré-Brexit, ce n'est pas tant l'engagement pro-européen du candidat Macron que le bouleversement du paysage politique français qui passionne la presse. Correspondance de Marie Billon.
Les résultats du premier tour signent un bouleversement historique, selon The Guardian, et l'humiliation des partis de gouvernement. Le journal de gauche définit ainsi les lignes de cette campagne de second tour. C'est un combat entre l'ouverture et la fermeture d'esprit, l'internationalisme et le nationalisme, l'optimisme et la haine, l'espoir et la peur. C'est vrai que la presse britannique se concentre surtout sur les hommes politiques à l'ancienne, comme les appelle The Independent, que les Français continuaient à élire jusqu'à maintenant. La majorité des quotidiens nationaux semble pousser un ouf de soulagement, mais pas tous. Le tabloïd Daily Mail titre « La nouvelle révolution française » et surnomme Marine Le Pen « La nouvelle Jeanne d'Arc », sans dire clairement s'il la soutient ou non. Mais l'éditorialiste de gauche Owen Jones, lui, n'a pas de doute. C'est un journal qui avait soutenu les nazis et qui soutient aujourd'hui les fascistes français, écrit-il sur Twitter. Si les Britanniques suivent d'aussi près le spectacle politique français, c'est qu'ils sont concernés au premier chef. Celui ou celle qui mènera la France influencera fortement les négociations sur le Brexit. Alors la grande question est-ce plus intéressant pour les Britanniques d'avoir un pro ou un anti-Europe à la tête de la France ? Emmanuel Macron a déjà dit qu'il tiendrait une position ferme face à Londres, donc ce n'est pas vraiment dans l'intérêt des Britanniques, mais le Daily Telegraph, un journal de droite pro-Brexit, estime que si Le Pen est élu, toutes les préparations pour le Brexit déjà entamées seraient bonnes à jeter à l'eau. Dès l'annonce des résultats, Nigel Farage, l'ancien chef du parti eurosceptique UKIP, a critiqué Emmanuel Macron qui s'affichait devant des drapeaux européens, mais pour autant il n'a jamais apporté un soutien clair à Marine Le Pen.
Marie Billon à Londres, et bien sûr nous reviendrons sur cette présidentielle française dans les prochaines éditions d'Accent d'Europe. Quel droit pour les homosexuels en Roumanie ? La question est posée pour la première fois à la faveur d'une action engagée par un couple roumano-américain qui veut faire reconnaître son mariage, prononcé en Belgique. Mais ni la société ni les politiques ne semblent prêts à un tel changement. Les opposants au mariage homosexuel devraient vraisemblablement obtenir la tenue d'un référendum visant à modifier la Constitution et spécifiant qu'un mariage ne peut être contracté qu'entre un homme et une femme. Le reportage de Benjamin Ribou.
Les nuages s'accumulent en ce mois de mars quand quelques milliers de personnes défilent à Bucarest sous la banderole « Une marche pour la vie ». Les anti-IVG et les associations de défense du modèle familial traditionnel, dont la très influente Coalition pour la Famille, se sont retrouvées autour de valeurs largement partagées dans la société roumaine. Comme à chaque fois, l'Église orthodoxe en profite pour réaffirmer ses positions, à l'image de ce prêtre qui prend la parole.
Peut-être que certains veulent changer tout ça, mais la vie et la famille sont faites selon la volonté de Dieu, et cela concerne un homme et une femme. Nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes ni homophobes, ni fanatiques, ni bigots, ni conservateurs, mais on veut que la Roumanie conserve son identité chrétienne. Que le bon Dieu vous vienne en aide. Amen.
Parmi les pays les plus religieux d'Europe, la Roumanie a toujours considéré les homosexuels comme des déviants. L'an dernier, une pétition a circulé afin d'introduire dans la Constitution la mention qu'un mariage se contracte entre un homme et une femme. Plus de 3 millions de personnes l'ont signé. Un référendum sur la question est également dans l'air. Nicoletta Lepada, présente elle aussi à la manifestation, craint pour son pays, mais aussi pour l'ensemble de l'Europe.
La famille signifie un homme et une femme. L'Europe va avoir un problème. En Iran, est-ce qu'une chose pareille est possible? En Asie, en Inde? Si jamais une loi pour les droits des homosexuels était votée, ça conduirait à la destruction de l'Europe. Autre problème, qu'est-ce que ferait l'Église dans cette situation et comment pourrait-elle célébrer les mariages entre homosexuels? Ce n'est pas possible vis-à-vis de Dieu ou de la loi. Pourquoi laisser faire ça? Ce n'est clairement pas une bonne chose. Ce serait un péché et une dégradation morale pour l'Europe.
Actuellement, le Code civil roumain ne reconnaît pas les mariages conclus à l'étranger entre des ressortissants roumains ou étrangers de même sexe. C'est le cas de ce couple roumano-américain, Adrian Coman et Clea Milton, mariés à Bruxelles et qui a enflammé les débats. Voulant vivre en Roumanie, ils se sont heurtés à des blocages juridiques et culturels. L'ancien député Remus Cerna est l'un des rares à défendre les droits des personnes LGBT. C'est aussi le promoteur d'un partenariat civil entre personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Celui-ci a été poussé à plusieurs reprises pour le moment.
Il y a 4 ans, quand j'ai déposé pour la première fois ce projet de loi concernant le partenariat civil, les dirigeants du Parti démocrate avaient menacé de me casser les deux jambes si jamais ils m'attrapaient. Le leader des libéraux au Sénat à l'époque, Puyu Achoti, disait lui que les homosexuels étaient des gens malades. C'est maintenant le 3e débat concernant le partenariat civil. Pour la première fois, la Commission pour les droits de l'homme et celle pour l'égalité des chances du Parlement ont donné un avis favorable.
Mais Remus Cerna est sûr que les politiciens n'attendent que le vote du référendum sur la famille et il est loin d'être progressiste.
Les arguments pour celui-ci sont juste d'ordre religieux. Ils sont contre la laïcité de l'État. C'est un référendum organisé à l'initiative d'organisations homophobes. Aujourd'hui, aucun parti présent au Parlement ne s'est opposé à son organisation. Aucun parti. Il faut aussi préciser que la Roumanie est le dernier pays européen, en 2001, à avoir supprimé les peines pénales pour les personnes homosexuelles.
Dans les années 90, il était encore fréquent d'entendre que des homosexuels étaient toujours envoyés en prison au motif de leur appartenance sexuelle. Voilà pourquoi l'ex-député rend hommage à la démarche d'Adrian Coman et de Clea Milton.
Ce couple roumano-américain a toute mon admiration, car ils auraient très bien pu avoir une vie normale aux États-Unis ou ailleurs en Europe. Quand ils atterrissent en Roumanie, leur mariage disparaît. La Roumanie est le pays où les droits de l'homme disparaissent. Elle s'est barricadée dans une espèce de bunker législatif pour que les gays ne disposent surtout d'aucun droit dans notre pays. Car s'ils avaient des droits, alors la croyance, les traditions et les valeurs du peuple roumain se verraient pulvérisées.
Pour le moment, le point de vue du couple Coman-Hamilton ne trouve que peu d'écho en Roumanie et l'issue du référendum pour modifier la constitution ne fait guère de doute. Le couple mise sur la jurisprudence européenne pour faire pencher la balance. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà par le passé sommé la Croatie et l'Italie d'adapter leur législation pour des cas similaires. Mais en Roumanie, la partie est loin d'être gagnée.
Une belle pagaille à la frontière entre la Slovénie et la Croatie. Depuis plusieurs semaines, des files d'attente monstrueuses se forment régulièrement au poste frontière. Explication de Simon Rico.
Depuis le 7 avril, il faut s'armer de patience pour passer la frontière entre la Croatie et la Slovénie. Pendant le week-end prolongé de Pâques, les files étaient même interminables devant les postes frontières. Sur l'autoroute reliant Zagreb à Ljubljana, à la douane de Dregana, la colonne de voitures atteignait ainsi les 10 km et il fallait attendre au moins 5 heures pour espérer passer de l'autre côté. Du jamais vu, titrait alors le grand quotidien croate Jutarnji List, qui décrivait un véritable chaos. À l'origine de ces blocages, le renforcement de sécurité qu'impose désormais l'Union européenne aux États membres de Schengen. La Croatie fait partie de cet espace de libre circulation depuis 2007, mais pas la Croatie. Les douaniers slovènes doivent donc désormais scanner chaque document d'identité et faire des vérifications dans 3 bases, celles d'Interpol, de Schengen et de la police nationale. Devant l'agacement de la population croate, le Premier ministre a fini par monter au créneau pour réclamer des contrôles ciblés tout en assurant comprendre les exigences sécuritaires de Ljubljana. Son homologue slovène lui a rétorqué que surveiller ses frontières était un devoir et qu'à défaut, son pays risquait une exclusion de Schengen. Si la situation s'est un peu améliorée ces derniers jours, les autorités de Zagreb sont inquiètes. Elles craignent que ces temps de passage à rallonge ne compromettent la saison touristique. Or, dans un contexte économique délicat, la Croatie ne peut pas se permettre la chute d'un secteur qui représente environ un quart de sa richesse nationale.
железничар бил на обичайния обход, когато се натъкнал на невероятна гледка. Релсите и земята около тях.
Да, господин министър. Нали си имаме герой? Ранко Петров се казва.
La bande-annonce de Glory, film bulgare de Kristina Grodzeva et Petar Valchanov, qui vient de sortir en France. Une comédie aigre-douce qui rend compte du cynisme de la société bulgare. À Sofia, Damien Vodenicharov.
Glory, c'est l'histoire d'un cantonnier qui découvre plus d'un million d'euros éparpillés sur les rails et qui décide de les rapporter à la police. En guise de récompense, il reçoit une montre du ministre des Transports. Jusque-là, le film s'inspire de la réalité. L'histoire du cantonnier Nicolas Dimitrov qui, en 2001, avait récupéré sur les rails la rançon destinée à la libération d'un homme d'affaires. Le film va plus loin. Il explore le maelstrom médiatique qui s'ensuit avec des retournements de situations inattendues. Par exemple, Tsanko, l'alter ego du cantonnier Nicolas, bégaye.
Nous avons notre héros. Il s'appelle Tsanko Petrov. Avez-vous hésité avant d'appeler la police ?
Je n'ai pas hésité, répond le cantonnier en bégayant. Petar Valchanov, co-réalisateur de Glory, explique que c'est un élément clé du sujet.
D'une part, le protagoniste est isolé du monde en raison de son bégaiement. Il a donc des problèmes de communication réels. D'un autre côté, ça le met à l'abri de ce monde qui va dans la mauvaise direction. C'est pour ça qu'il a pu conserver de vraies valeurs.
L'autre personnage principal du film, Yulia, est l'antithèse de Tsanko. Elle est la responsable des relations publiques du ministère et elle est prête à tout pour sa carrière.
Je sais pourquoi vous faites tout ce cirque. Combien vous voulez ?
Pour Yulia, tout s'achète. Lorsqu'elle égare la montre familiale de Tsanko, qui essaie de la récupérer, ça ne peut être qu'une question d'argent. Alors que pour Tsanko, cette montre héritée de son père est le seul objet en sa possession qui est une valeur sentimentale. Le choc entre ces deux personnages déclenche une cascade d'événements de plus en plus sérieux qui touchent à la corruption et à la violence. Pour Petar Valchanov, cet élément s'inspire aussi de la réalité.
Malheureusement, le désespoir devient de plus en plus fort. Au sein de la société, les gens réagissent de moins en moins. Ils deviennent très indifférents à ce qui les entoure. Et depuis le début, notre point de repère dans le film était que le bien est fragile et il peut être écrasé très facilement.
Au-delà d'être une comédie au goût amer, Glory est le portrait d'un homme honnête confronté à une société indifférente et cynique. Ce qui explique peut-être aussi le succès de ce film à l'étranger.
À Vienne, en Autriche, les marchés traditionnels sont victimes de leur succès. Dans certains quartiers de la capitale, le flot de touristes est tel que les marchés se transforment peu à peu en quartier de restaurants. Les résidents sont même obligés d'aller chercher ailleurs leurs fruits et légumes, Céline Béal.
Le Nachmarkt, le plus gros marché viennois, voit passer près de 65 000 visiteurs chaque semaine. Nombre d'entre eux sont des touristes, attirés par son architecture début de siècle. On y trouve en effet des pavillons anciens qui sont occupés par les commerçants, mais aussi par de plus en plus de restaurateurs. Ici, comme sur de nombreux autres marchés au détail de Vienne, la restauration prend le pas sur la vente alimentaire. De nouveaux estaminets y attirent un public branché, ce qui a probablement permis de sauver ces lieux traditionnels de quartier face à l'essor des supermarchés. Néanmoins, cette transformation urbaine pose aussi pas mal de problèmes. D'un côté, les nouveaux restaurateurs se plaignent des restrictions particulières imposées sur les marchés en matière d'horaire ou du nombre de places assises, par exemple. De l'autre, l'attribution des emplacements se fait, en grande partie, sans régulation municipale, de sorte que la spéculation va bon train. Des commissions mirobolantes passent de main en main et rendent difficile pour les maraîchers, bouchers ou poissonniers locaux de reprendre un stand. Au final, ce sont sur de nouveaux petits marchés hebdomadaires que les citoyens peuvent retrouver leurs produits de base, sans architecture spectaculaire, mais au plus près des producteurs.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. On se retrouve demain dès 17h40 temps universel. Et on se retrouve tout de suite sur RFI.fr à la page émission, ainsi que sur Twitter et Facebook.